crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Jean-Paul Kerr. Étoile sur Rhône, dans la Drôme. Le 31 octobre 2014, le corps atrocement mutilé de Jean-Paul Kerr est retrouvé par un pêcheur gisant au bord du fleuve. Ce ferrailleur de 51 ans a également reçu une balle en pleine tête. La piste criminelle ne fait donc aucun doute. Mais pourquoi un tel déchaînement de violence ? S'agit-il d'un règlement de compte ou d'une affaire plus personnelle ? Une chose est sûre, cette enquête va donner du fil à retordre aux gendarmes chargés du dossier. L'affaire Jean-Paul Kerr, un nouveau podcast de Chroniques criminelles. Tout commence dans la région de Valence, à la frontière de la Drôme et de l'Ardèche. À l'automne 2014, les habitants des bords du Rhône profitent encore des rayons de soleil de l'arrière-saison.
Nous sommes à Étoile-sur-Rhône.
Alain Faure, avocat de la Défense.
C'est un petit village en dessous de Valence,
un bel endroit.
Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers.
On voit au loin les monts de l'Ardèche, la vallée du Rhône.
Plus qu'un village, c'est une commune de 5000 habitants qui mène une vie paisible et sans histoire. Non loin de là, il y a un barrage, le barrage de Charmes-sur-Rhône. Le jour, c'est un lieu très apprécié des pêcheurs. Mais la nuit...
C'est plutôt mal fréquenté.
Jeanne-Odile Bois, avocate des parties civiles.
C'est là où il y a du trafic de drogue, c'est là où il y a des prostituées.
Nous sommes le 31 octobre 2014. C'est le jour d'Halloween. Cet après-midi-là, un pêcheur se promène justement le long des rives du barrage quand une forme blanche flottant dans l'eau attire son attention. Il croit tout d'abord qu'il s'agit d'un mannequin. Mais lorsqu'il s'approche, il constate avec effroi qu'il s'agit du corps d'un homme. Sous le choc, il met quelques minutes avant d'appeler la gendarmerie. Arrivés sur les lieux, les gendarmes sortent le corps de l'eau.
C'est sordide. Ils voient surtout le fait qu'il ait été éventré et qu'il soit nu.
Il n'était pas en état de décomposition parce qu'il semblait avoir été...
Jacques Dallest, procureur général de Grenoble.
Immergé depuis peu de temps.
Dès les premières constatations, les gendarmes comprennent que cette affaire ne ressemble à aucune autre. L'homme a le crâne défoncé et le thorax perforé. Sur le dos, des éraflures importantes. Et pire, ses organes sont hors de son ventre. Il est comme éviscéré. Les enquêteurs sont face à un crime hors du commun. Mais pourquoi un tel acharnement sur la victime ?
Les atrocités commises.
Nathalie de Kayser, journaliste à France Bleu Drôme Ardèche.
Font penser aux enquêteurs que peut-être il y a une vengeance spécifique particulière.
Il est salement amoché, c'est le moins qu'on puisse en dire.
Yvan Flo, avocat de la Défense.
Puisque la mort est une mort violente, on le sait bien évidemment, donc c'est pas beau à voir.
L'homme doit avoir une cinquantaine d'années. Il est chauve, de petite taille et de corpulence robuste. Signe particulier, il porte une moustache imposante. Le long du chemin qui mène à la berge, les gendarmes repèrent des traces de sang.
Visiblement, le corps a été traîné jusqu'à la rive.
C'est un chemin escarpé, rocheux.
François Butiot, avocat des parties civiles.
Et toute la question sera comment le corps est venu jusqu'à la berge.
Rapidement, la police scientifique passe à l'action. Chaque centimètre carré est inspecté à la recherche d'éléments qui permettraient d'identifier la victime.
La victime, à ce moment-là, on ignore qui c'est parce qu'elle est trouvée sans papier.
On retrouve des vêtements éparpillés non loin sur les rochers près de la rive.
Les enquêteurs ramassent une chaussure, une chaussette et trois t-shirts ensanglantés. De toute évidence, ils appartiennent à la victime. Pourquoi le ou les criminels les ont-ils oubliés sur les lieux ? Pour les gendarmes, c'est un premier indice.
On s'aperçoit que zut, peut-être sa chemise, son pantalon, ça va permettre de l'identifier ou ça va... Donc on retire ça à la va-vite, mais on va pas jusqu'au bout. Donc ça dénote quand même qu'on a aussi agi dans une espèce de forme d'urgence, sans bien maîtriser ce qu'on faisait, sans avoir une idée précise au départ de ce qu'on allait faire.
Alors est-ce que c'est parce que y a un affolement ? Est-ce que c'est parce que y a une sorte de chaos qui se crée ?
Devant l'état du cadavre, les enquêteurs s'interrogent. Qu'est-ce qui a pu provoquer un tel déchaînement de violence ? Quel peut être le profil du ou des criminels ?
On ne peut pas avoir une position très tranchée en disant le crime de professionnel, c'est deux balles dans la tête. Point final. Il y a des coups visage, donc est-ce que ce sont des coups pour faire parler ? Et puis l'éventration, est-ce que là encore, quelque chose qui a une explication ? Tout ça ne permet pas de dire clairement au début à qui on peut avoir affaire.
Dire que ça va être un crime passionnel, un crime lié au banditisme, un règlement de compte, etc., je pense que c'est beaucoup trop tôt lorsqu'on découvre le corps.
La priorité, c'est donc de découvrir l'identité de la victime. Alors les gendarmes prennent ses empreintes digitales et gèlent la scène de crime. Le procureur de la République confie l'enquête à la section de recherche de Grenoble et à la brigade de recherche de Cray. Dès le lendemain de la découverte du corps, la presse s'empare de l'affaire. Et quelques heures plus tard, en pleine nuit, l'enquête connaît un premier rebondissement. Une jeune femme appelle la gendarmerie. Elle a passé, dit-elle, toute la soirée à attendre son père. Et d'après elle, ça n'est pas du tout normal.
Le soir même de la découverte de ce corps, nous avons une personne qui attend son père pour dîner, n'a pas de nouvelles, alors ça lui ressemble absolument pas, s'inquiète tout particulièrement.
Elle explique au téléphone aux gendarmes qu'elle a une amie qui est allée voir au domicile de son père et elle a constaté son absence.
La porte d'entrée est ouverte. Le chapeau de la victime, qui prend toujours pour sortir, est présent. Et puis son véhicule est là. Donc, c'est incompréhensible. Tout est comme s'il était parti l'espace de 5 minutes, quoi.
Les enquêteurs se rendent chez la jeune femme à Huppy, une commune de 1500 habitants, à 15 km de Cray. Il lui présente la photo du cadavre repêché dans le Rhône. Aussitôt, elle s'effondre. Elle vient de reconnaître son père. Il s'appelle Jean-Paul Kerr. Les gendarmes avertissent alors les deux filles aînées de la victime, nées d'une première union, Angélique et Océane.
J'y croyais pas. C'était impossible, c'était surréaliste.
Angélique Bernat, fille de la victime.
Donc j'ai rappelé plusieurs fois et on m'a dit qu'il y avait sur le Dauphiné qu'ils avaient trouvé un quinquagénaire mort, nu dans le Rhône. Je dis, j'en suis sûre que c'est papa, c'est papa.
Ma soeur nous appelle en hurlant. Papa est mort, papa est mort.
Océane Kerr, fille de la victime.
Sur le coup, j'ai mis longtemps à comprendre. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est encore dur à comprendre que c'est notre papa. Quand on tue une personne et qu'on s'acharne sur son corps, de façon à ce qu'il n'ait même plus de visage, pratiquement, c'est horrible. C'est de la barbarie de découper un corps mort.
Pour savoir qui pouvait en vouloir autant à Jean-Paul Kerr, les gendarmes interrogent ses proches. Ils veulent comprendre qui était cet homme de 51 ans. Et ce qu'ils découvrent, c'est une personnalité contrastée.
Alors, mon papa, c'était quelqu'un de jovial, de doux, qui donnait sa chemise à des personnes dans le besoin.
Il était très dur, il fallait marcher droit, surtout ses enfants. Il ne voulait pas qu'on devienne des cloches, comme il disait. Il fallait qu'on avance dans la vie, qu'on travaille, que si un jour il n'était plus là, il fallait qu'on se débrouille tout seul. Oui, il aimait tout le danger, il aimait l'extrême.
C'est un homme qui est athlétique, qui n'est pas le dernier à se battre quand il faut se battre, qui ne va pas forcément provoquer la bagarre, qui peut aussi défendre son prochain.
L'homme très entier, qu'il ne fallait pas énerver, parce qu'il semble-t-il qu'il pouvait avoir le coup de poing facile, mais plutôt considéré comme franc et loyal.
Les enquêteurs s'intéressent alors à sa vie familiale. Ils apprennent notamment que Jean-Paul Kerr a eu 7 enfants de 2 femmes différentes.
Une première compagne avec laquelle il a 4 enfants.
Nathalie de Kayser, journaliste à France Bleu de Romardèche.
Une séparation et puis une histoire d'amour avec une jeune femme plus jeune que lui. Ils vont avoir 3 enfants.
Ils resteront ensemble pendant 17 ans. Cette femme, c'est Audrey Galinotti. Elle a 18 ans lorsqu'elle le rencontre. Jean-Paul, lui, en a 33. Les gendarmes tentent d'en savoir plus sur le couple qu'elle forme avec Jean-Paul Kerr.
Audrey Galinotti, c'est une femme qui est issue donc d'un milieu très très modeste.
Yvan Flo, avocat de la Défense.
Qui a rencontré donc Jean-Paul Kerr, elle était très très jeune.
Elle était belle. Avec mon papa et ma maman, c'était la routine. Et puis après, elle s'est rapprochée de papa et puis elle est partie avec mon papa.
À l'époque, cette liaison n'est pas du goût de la famille de la jeune femme. Mais Audrey est amoureuse. Malgré la vie de ses parents, elle quitte tout pour vivre avec Jean-Paul.
Le père Galinotti, qui connaissait de réputation Jean-Paul.
Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers.
A vu très très mal le fait que sa fille, qui avait 15 ans de moins, se mette avec ce personnage-là.
Elle coupe momentanément les ponts avec son père.
François Butiot, avocat des parties civiles.
Moins avec sa mère, qui, avec laquelle elle correspond plus ou moins en cachette.
Les enquêteurs continuent d'entendre les proches de Jean-Paul Kerr. Les témoins parlent d'un homme travailleur, dur et courageux. Parti de rien, sans diplôme, il a acquis une certaine aisance financière.
C'est un enfant de la DAS qui a été placé très jeune et pendant très longtemps.
Jeanne-Odile Bois, avocate des parties civiles.
Il avait toute sa partie sombre, mais pour autant, il avait aussi toute la partie claire, qui était de vouloir s'en sortir dans la vie, de s'être fait tout seul, d'avoir réussi financièrement quand même.
Il est en tout cas connu dans son univers, dans son milieu, pour être quelqu'un de relativement fortuné et nettement plus fortuné que les gens qui pouvaient l'entourer.
Sa fortune, Jean-Paul Kerr l'a gagnée dans la ferraille. Une quarantaine d'appartements qu'il loue, des placements financiers et bien sûr des voitures qu'il achète et revend. Ferrailleur, ça n'est pas un métier d'enfant de cœur. Et l'homme l'exerce avec poigne.
On est un peu dans ce registre-là de grande gueule du village que tout le monde aime bien, mais que, bon, on craint aussi.
Il est obligé d'utiliser ses habitudes un peu archaïques, un peu violentes, parce que sinon, c'est la fin de son travail.
Un homme à la personnalité rugueuse, sans compromis ni concession. Et ce comportement pèse sur la vie de couple. Entre Jean-Paul et Audrey, la tension devient permanente. Un climat de violence s'installe.
Une jeune fille timide, réservée.
Alain Faure, avocat de la Défense.
Et un homme dont on sait qu'il est, qu'il a un caractère extrêmement fort. Un caractère violent, un caractère possessif.
Audrey Galinotti a accepté de nous raconter ce qu'elle a subi.
Au début, j'avais pas le droit de travailler. J'avais pas le droit de passer mon permis.
Audrey Galinotti, ex-compagne de Jean-Paul Kerr.
C'était tout plein de choses. Après, il m'avait coupé de mes amis, de tout. Il était très possessif, oui, très jaloux.
De toute façon, tous les deux, c'était les feux de l'amour. Les feux de l'amour. Ça se bagarrait, ça s'aimait.
Au mois de mai 2013, après 17 ans de vie commune, Audrey est à bout. Elle décide de se séparer de Jean-Paul Kerr.
Et il se met à faire tout ce qu'il peut pour la reséduire et qu'elle revienne auprès de lui.
Jean-Paul n'accepte pas la séparation, il s'accroche. Mais Audrey part s'installer à Montméran, un village voisin. Alors, il se met à la harceler jusque chez elle.
Depuis que j'avais déménagé, de toute façon, il était toujours en train de me surveiller chez moi. Des harcèlements téléphoniques.
Chaque jour amenait son lot d'inquiétudes. Est-ce qu'il va arriver? Le portable sonne, c'est encore lui, mais qu'est-ce qu'il veut?
Audrey, elle fait partie de sa vie. Et puis voilà, on n'en sort pas quand on décide.
Les enquêteurs savent maintenant que Jean-Paul Kerr, au moment de sa mort, était en conflit avec son ex-compagne. Cela pourrait-il constituer un mobile? Une dispute aurait-elle pu mal tourner? Il décide d'auditionner Audrey Galinotti. Elle coopère sans se faire prier et elle leur révèle avoir reçu des appels de Jean-Paul Kerr dans la soirée du 30 octobre 2014, la veille de la découverte du corps. Se sentant menacée, elle avait demandé à son frère William de lui tenir compagnie.
Elle reçoit des SMS, des appels téléphoniques de la part de Jean-Paul Kerr, et puis elle finit par ne plus répondre.
Elle a le sentiment ce soir-là d'être harcelée, elle a peur parce qu'il finit par dire « je vais arriver ». Il y a même un moment où c'est son frère, William, qui prend le téléphone en disant « il faut que ça cesse, c'est moi qui vais lui parler », voilà. Et puis les coups de fil s'arrêtent et Jean-Paul ne vient pas.
Jean-Paul Kerr était donc bien vivant vers minuit. Mais après, plus de nouvelles, plus de coups de téléphone. Et contrairement à ce qu'il avait dit, il ne se présente pas au domicile d'Audrey, son ex-compagne. Audrey part se coucher. Son frère William, pour la rassurer, reste dormir sur le canapé. William est entendu à son tour et il confirme la version de sa sœur. Audrey a donc un alibi, mais pour les enquêteurs, le meurtrier peut malgré tout se cacher parmi les proches de la victime. Alors il place tout l'entourage sur écoute téléphonique. Il demande aux opérateurs de leur transmettre la liste de leurs appels avant et après les faits. Cela va prendre du temps, mais cela va leur réserver quelques surprises. En attendant les relevés détaillés des appels, les hommes de la section de recherche ne veulent négliger aucune piste. Ils s'intéressent alors aux relations professionnelles de Jean-Paul Kerr dans le milieu de la ferraille.
C'est un milieu extrêmement difficile.
Jeanne Odile Bois, avocate des parties civiles.
Il est en contact avec des personnes, effectivement, où la ferraille, ça reste un peu du trafic. Et donc, il reste en contact toujours avec un peu des malfrats.
Un milieu rude.
Jacques Dallest, procureur général de Grenoble.
Rude où toutes les pratiques ne sont pas licites. Sur l'usage de la ferraille, l'acquisition, la revente, ça vous met en rapport avec des milieux assez interlopes qui touchent à la marginalité, plus ou moins.
Les gendarmes vont quand même, en priorité, essayer de...
Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers.
De voir l'éventualité d'un règlement de compte lié aux activités du ferrailleur.
C'est une amie de Jean-Paul Kerr qu'il émet sur une piste en se rendant à la gendarmerie. Elle indique que depuis quelque temps, il se sentait suivi. Et elle raconte que quelques jours avant le meurtre, une Mercedes noire les avait pris en filature. Et ce n'est pas tout. La jeune femme raconte également aux enquêteurs une étrange histoire. Quelques jours après le crime, un certain Marco, une connaissance de la victime, lui aurait fait d'inquiétantes confidences.
Il s'agit de rumeurs de personnes qui sauraient que c'est donc des Roumains qui se seraient vengés pour une non-vente de ferraille.
Ces Roumains seraient venus l'enlever, l'auraient assassiné, éventré et jeté dans le Rhône.
Des rumeurs, mais que les gendarmes prennent très au sérieux. Ils se mettent en quête du fameux Marco. Ils le retrouvent rapidement et le conduisent à la gendarmerie pour l'interroger. Marco confirme ces informations. Il les tiendrait d'un détenu qui vient d'être libéré. Les enquêteurs creusent cette nouvelle piste, mais au bout de quelques mois, il faut se rendre à l'évidence. Impossible de confirmer la moindre information.
Tout ça ne repose sur rien. La piste roumaine ne mène à rien.
C'était une piste qu'il fallait travailler. Mais dès qu'on vous parle d'étrangers mis en cause, c'est compliqué. Difficile pour les enquêteurs de remonter à des gens impliqués d'origine étrangère.
Mais les gendarmes ne lâchent rien et poursuivent leurs investigations. Car des témoignages les ont mis sur une nouvelle piste du côté des locataires des appartements de Jean-Paul Kerr. Quelques jours avant le meurtre, il serait allé récupérer des loyers impayés chez des locataires d'origine tchétchène.
C'est pas le genre à envoyer le facteur pour toucher le loyer, Jean-Paul. Donc, quand il y a un arriéré de loyer, c'est lui qui va en personne et qui va percevoir les loyers.
Une fois où on le payait pas, il a immédiatement explosé, quoi, pété un plomb.
Au cours de la bagarre, l'un des occupants aurait été grièvement blessé. Les enquêteurs pensent alors que Jean-Paul Kerr aurait pu être victime d'une vengeance. Mais sur place, il déchante encore une fois. Le logement est inoccupé depuis des années. Cette histoire était en fait très ancienne. La piste des locataires tchétchènes s'effondre, elle aussi. Alors, qui pouvait en vouloir à Jean-Paul Kerr? Pour les gendarmes, tout les ramène à l'entourage de la victime. Angélique et Océane, les filles de Jean-Paul Kerr, sont du même avis. Depuis le début, elles soupçonnent la famille d'Audrey, l'ex-compagne de leur père, d'être mêlée à l'affaire.
Elle disait, pour nous, ça peut venir que de son côté, et pour autant, on ne comprend pas pourquoi elle serait allée jusque-là.
Et c'est William, le frère d'Audrey, qu'elle vise, parce qu'elle se rappelle les menaces qu'il proférait à l'égard de leur père.
Quelques mois avant,
Angélique Berna, fille de la victime.
William, lors d'une soirée, a dit exactement ce qu'il allait faire.
Il a dit une phrase qui me restait.
Océane Kerr, fille de la victime.
Comme quoi il allait massacrer papa, le tuer, l'éventrer, le balancer dans le Rhône, quoi.
Mais les deux sœurs ont l'impression que les enquêteurs ne partagent pas leurs soupçons. Car selon eux, William n'a pas le profil d'un tueur.
Les gendarmes nous disaient, vous rendez compte, vous avez vu comme il est maigre. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse?
Et d'ailleurs, pour quelle raison aurait-il tué son beau-frère? Pourtant, ils vont tout de même creuser la vie du couple. Et ce qu'ils découvrent sur le comportement supposé de Jean-Paul Kerr va relancer l'enquête.
Ben, il m'étranglait. Enfin...
Audrey Galinotti, ex-compagne de Jean-Paul Kerr.
Il donnait des coups de poing, des coups de pied.
Je passais par-dessus, puis j'avais très peur, quoi, en fait. C'est pour ça que j'arrivais pas à le quitter.
Pour lui, enfin, j'étais un objet, voilà, pour faire le ménage, m'occuper des enfants. Et...
Il considérait Audrey Galinotti comme étant sa propriété exclusive, et j'ose même le dire, sa chose.
Yvan Flo, avocat de la Défense.
et elle n'en pouvait plus d'être violentée, d'être frappée. À un moment donné, elle s'est dit que si elle ne partait pas, elle allait finir par mourir.
Ce qu'Audrey leur décrit, c'est un véritable enfer. Pourtant, ces violences, elle les cache à sa famille pendant 17 ans.
Pendant des années...
Alain Faure, avocat de la Défense.
Il a commis sur elle des violences conjugales pour asseoir son emprise. Et petit à petit, elle va sombrer dans la dépression.
Mes parents, comme ma famille, ont dit « ne va pas avec cet homme, il est super violent, ne va pas avec lui ». Et moi, je me suis entêtée, je ne les ai pas écoutés. Mon père, il m'a rogné pendant 5 ans. Ma mère a réussi à ce qu'on se reparle.
Le jour où Audrey décide de quitter le domicile familial, c'est d'ailleurs sa mère qu'elle appelle à l'aide.
Ma mère est venue me chercher, donc elle lui a dit gentiment, mais je vais chercher ma fille et mes petits-enfants. Lui, ça lui a pas plu. Du coup, ma mère s'est battue avec lui. Ma mère, elle a pris une bombe à Crémont. Et là, ça s'est enchaîné, quoi. Après, ma mère, du coup, elle s'est défendue comme elle a pu.
Une violence totalement anormale. En fait, Jean-Paul Kerr, encore une fois, a considéré sa femme comme sa propriété.
Et cette violence se répétera même après la séparation du couple, en montant encore d'un cran.
Audrey Galinotti recevra un coup de couteau juste au niveau du menton.
Guillaume Faure, avocat de la Défense.
Simplement parce qu'elle ne veut pas lui dire « je t'aime », alors que ça fait plus d'un an qu'ils sont séparés.
Jean-Paul dira qu'elle a essayé de l'attaquer avec un sécateur.
Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers.
C'est un peu le couple infernal, c'est-à-dire que lui, visiblement, a été violent, mais qu'elle, elle a du mal aussi à contrôler ses nerfs. C'est un peu « je t'aime, moi non plus ».
Les gendarmes continuent de recueillir les témoignages sur ce couple où les violences s'invitent régulièrement. Certains rapportent même une scène où cette fois c'est Jean-Paul Kerr qui est la victime.
Audrey Galinotti plante un coup de couteau dans la cuisse de Jean-Paul Kerr.
François Butiot, avocat des parties civiles.
Dans un contexte où celui-ci, alors qu'ils étaient séparés, jouait sur la jalousie et essayait de faire semblant d'être proche d'une autre femme. Et devant Audrey Galinotti, elle s'en est émue, elle s'est énervée.
On voit cette femme qui perd totalement ses moyens.
Jeanne-Odile Bois, avocate des parties civiles.
Elle passe à un acte qui est extrêmement violent. C'est un jeu à deux, et une sorte de folie à deux, où ils se déclenchent mutuellement en permanence.
Mais les mois passent et les enquêteurs font du sur place. En avril 2015, les résultats des analyses des relevés téléphoniques parlent enfin. Et l'affaire prend alors une toute autre tournure.
Il aura fallu attendre tout de même plus de 5 mois et demi dans ce dossier pour avoir l'exploitation téléphonique d'Audrey Galinotti, William Galinotti, Jean-Paul Kerr et d'autres.
Mais les enquêteurs ont des surprises avec les résultats des écoutes téléphoniques.
Nathalie De Keyser, journaliste à France Bleu Drôme Ardèche.
Ce qu'on appelle le bornage des téléphones portables des uns et des autres auprès de différents relais.
Et le premier à se retrouver dans le viseur, c'est William Galinotti. À l'époque, il affirmait s'être endormi devant un DVD et ne pas avoir bougé de chez Audrey. Or, les relevés disent le contraire.
William Galinotti s'est déplacé très près du lieu où l'on a retrouvé le corps.
Le téléphone de William, on se rend compte, déclenche deux bornes successives, une à Valence, une au barrage de Charmes-sur-Rhône.
Et ce n'est pas tout. Les gendarmes découvrent aussi que, la nuit du crime, le téléphone de la victime a borné dans le village de Montméran, précisément là où habite Audrey, son ex-compagne.
Jean-Paul Kerr s'est déplacé, il a borné dans la zone où habitait Audrey Galinotti, donc on peut penser qu'il est venu chez Audrey Galinotti le soir des faits.
C'est ce qui contredit totalement la version d'Il n'est pas venu de la part d'Audrey et de William au départ. On est certain à ce moment-là qu'il a pris la direction de leur domicile.
À partir de là, l'enquête prend un tournant décisif. Car ce n'est pas le seul mensonge du couple. Les analyses téléphoniques révèlent aussi que la jeune femme qui prétendait dormir a en fait passé la nuit à envoyer des messages.
Il y a eu un certain nombre de SMS envoyés. Le téléphone était en activité toute la nuit.
À partir du moment où son téléphone fonctionne et borne à un certain nombre de lieux, elle ne dormait pas.
Le numéro de téléphone appartient à un certain Philippe. Et quand, le 9 avril 2015, les enquêteurs le convoquent à la gendarmerie pour en savoir plus, ils vont se rendre compte qu'ils sont encore loin de la vérité.
Il y avait une troisième personne qui était présente ce soir-là, qui était un ami d'Audrey Galinotti. Celui-ci aussi, il va être en lien téléphonique avec Audrey Galinotti. Et là, à la grande surprise des enquêteurs qui lui proposent de venir pour être entendu le lendemain, il dit non, moi c'est pas demain que je viens, c'est ce soir, aujourd'hui même.
Parce que j'ai des choses à vous dire.
Yvan Flo, avocat de la Défense.
Qui sont d'une importance capitale. Il voulait soulager en fait sa conscience.
Face à des gendarmes stupéfaits, le dénommé Philippe va raconter tout ce qu'il sait. À commencer par le fait que depuis quelques mois, il était l'amant d'Audrey.
Il était là pour un contrat de quelques mois. Il avait un chantier à faire dans la région.
Philippe est une connaissance d'Audrey Galinotti avec lequel elle entretient une relation intime, épisodique. Ils se connaissent très peu. Lui déclare l'avoir rencontré une ou deux fois avant ce soir-là.
Mais les révélations ne s'arrêtent pas là. Philippe se sent coupable de ne pas être venu les trouver plus tôt, car depuis 5 mois, il détient un terrible secret. Il avoue qu'il était présent sur les lieux le soir du 30 octobre 2014, quand Jean-Paul Kerr a été tué. Devant les gendarmes, il craque et il raconte en détail ce qu'il s'est passé cette nuit-là. Tout a commencé quand il se rend chez Audrey pour prendre l'apéritif.
Audrey et lui sont rejoints ensuite par William Galinotti, qui se joint à eux pour boire un verre, jusqu'à ce que le téléphone sonne.
Il a compris qu'il s'agissait donc de l'ex-ami d'Audrey, donc Jean-Paul Kerr. Là, l'atmosphère s'est assombrie.
Jean-Paul n'arrête pas d'appeler. Il veut à tout prix reconquérir Audrey et il insiste lourdement. Audrey, agacée, finit par lui raccrocher au nez. Mais Jean-Paul ne lâche rien. Il rappelle. Alors cette fois-ci, c'est William Galinotti qui décroche.
Le coup de fil de trop.
Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers.
Et à un moment donné, il entend William dire « Écoute, viens, on va s'expliquer d'homme à homme. »
L'autre, il s'est senti provoqué.
Jacques Dallest, procureur général de Grenoble.
C'était pas le genre, Jean-Paul Kerr, à se laisser intimider.
C'est pas simplement une relation de défi entre les deux hommes. Hein.
Guillaume Faure, avocat de la Défense.
Il s'agit véritablement, dans un premier temps, d'une jalousie qui est maladive. Il voulait vérifier s'il n'y avait pas un homme avec son ancienne conjointe.
Il est environ minuit. Philippe raconte aux enquêteurs que William prend peur. Il comprend que le ferrailleur sera là d'un moment à l'autre pour en découdre.
Et William panique à cet instant-là et il prend la décision d'aller chercher le fusil de chasse pour essayer de défendre sa sœur.
Il allait se poster derrière sa petite camionnette. Et dans le noir complet, il a chargé son arme.
Quelques kilomètres seulement séparent la maison de Jean-Paul de celle d'Audrey. Caché, William se tient prêt à recevoir son ex-beau-frère.
Alors Jean-Paul Kier saute dans son véhicule, avale les quelques kilomètres et en l'espace de 10 minutes, arrive au domicile d'Audrey Galinotti.
Jean-Paul Kier sort de la voiture.
François Butio, avocat des parties civiles.
Marche vers eux, toise Philippe en lui disant « Mais t'es qui, toi ?»
Philippe répond qu'il est un ami. Au même moment, William Galinotti surgit de sa cachette et tire en direction de Jean-Paul Kier.
La balle ne touche absolument pas Jean-Paul Kier à ce moment-là.
Jean-Paul Kier se retourne et lui dit « c'est comme ça que tu montres que t'es un homme ».
Donc là, William s'approche de Jean-Paul Kier et lui tire un coup dessus. Et Jean-Paul Kier s'écroule juste devant lui.
Jean-Paul Kier est mortellement touché au thorax. Pourtant, William Galinotti n'en reste pas là. Fou de rage, il s'acharne sur sa victime qui agonise à ses pieds.
Il tourne son fusil.
Jeanne Odile Bois, avocate des parties civiles.
Côté crosse, il tape inlassablement la tête de Jean-Paul Kier.
Le témoin dira que le bruit de ses coups ont résonné de nombreuses semaines encore dans sa tête.
Face à une telle violence, Philippe est tétanisé. William se serait alors retourné vers lui et l'aurait menacé.
William vient vers lui dit « Toi, t'as rien vu, t'as rien entendu ».
Il est dans une situation, enfin, ubuesque, impensable.
Yvan Flo, avocat de la Défense.
Il ne peut pas, en arrivant ce soir-là chez Audrey Galinotti, il ne peut pas imaginer un instant que cette soirée va se terminer de la manière dont elle se termine.
Et lui dit « Bon, je vais aller me coucher ».
Audrey lui demande de rester, mais Philippe, effrayé, décide de partir, laissant Audrey seule avec son frère et le cadavre de Jean-Paul Kier. Face aux enquêteurs, Philippe ajoute qu'après son départ, Audrey a cherché à le joindre plusieurs fois dans la nuit.
Et au bout d'un moment, j'arrive à la voir, du coup, je me suis rendue chez lui.
Audrey Galinotti, ex-compagne de Jean-Paul Kier.
Et oui, effectivement, là, je lui ai dit, ne dirais-je la gendarmerie, quoi.
Il va lui promettre, effectivement, qu'il ne dira rien. Je pense qu'elle aurait peut-être aimé que cette relation, malgré tout, continue, parce que enfin, elle avait quelqu'un peut-être sur qui un petit peu se reposer, tout simplement. Mais au regard de ce qui s'était produit, eh bien, il lui dit que non, c'est terminé.
Il va s'en aller et il va même s'en aller vite.
Nathalie De Keyser, journaliste à France Bleu Drôme Ardèche.
Il va retourner dans sa région d'origine et il va rien dire à personne.
Les gendarmes décident de laisser Philippe en liberté. Mais ils ont désormais assez d'éléments pour confronter Audrey et William à leurs mensonges. Le 9 avril 2015, plus de 5 mois après la découverte du corps de Jean-Paul Kier, le frère et la sœur sont placés en garde à vue. Au début de son audition, Audrey campe sur ses positions. Ce soir-là, dit-elle, elle était harcelée par Jean-Paul Kier et épuisée, elle serait allée se coucher. Mais les enquêteurs lui disent être au courant de sa liaison avec Philippe et qu'il leur a tout raconté. Audrey comprend alors qu'elle est piégée. Elle avoue et admet que c'est bien son frère William qui a abattu Jean-Paul Kier.
Je vais dire à mon frère, on appelle la gendarmerie. Il m'a dit non, non. J'ai vu plein de sang, j'ai nettoyé. Pour mes enfants, j'ai pensé directement à mes enfants. Et Willy s'est occupé du corps.
Après les aveux d'Audrey, les enquêteurs veulent faire parler William Gallinotti. Mais ils ne sont toujours pas persuadés qu'il a le profil d'un tueur aussi sauvage.
Il travaille depuis des années, il a même deux enfants.
Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers.
C'est quelqu'un qui n'a jamais fait parler de lui et qui n'a pas du tout le profil du délinquant et a fortiori du meurtrier.
William est un homme qui ne cherche pas les histoires, qui ne cherche pas les problèmes. Au moment des faits, il travaillait au sein d'une entreprise de viennoiserie.
En ce mois d'octobre 2014, William Gallinotti traverse une période difficile. Sa femme l'a quitté quelques mois plus tôt. La séparation s'est plutôt bien passée, mais il se sent seul.
Il accepte la volonté de la mère de ses enfants de se séparer. Il accepte sa volonté d'avoir un nouveau conjoint.
Et sa vie, ça se résume à voir les copains, à travailler un peu et à chasser, et voilà.
Rien donc qui laisse penser qu'il aurait pu commettre un crime aussi horrible. Mais en creusant un peu son passé, les enquêteurs font d'autres découvertes.
Il n'a pas un passé de délinquant, hein, mais il a un passé plus de personnes en difficulté, voilà, fragiles. Il est toxicomane.
C'est un homme qui est pacifique, très sincère dans sa manière de présenter les choses, mais qui est assez vulnérable, en réalité, aux choses de la vie. C'est un jeune homme qui va tomber dans différentes consommations toxiques et de drogue.
Alors, pour tenter de comprendre ce qui aurait pu le faire basculer, ils l'entendent à son tour. Au début de l'interrogatoire, William maintient ses premières déclarations. Les gendarmes finissent par sortir leur dernier atout. L'analyse de sa téléphonie. Ils savent que la nuit des faits, son portable a borné tout près de la scène de crime. Acculé, William craque et il passe lui aussi aux aveux. Et voici ce qu'il raconte aux enquêteurs.
Lorsque Jean-Paul Kerr arrive, celui-ci arrive comme un fou. Il laisse sa voiture, les phares éclairés, le moteur en marche au milieu de la cour.
Alors William Gallinotti, au moment où Jean-Paul Kerr sort, va se présenter en indiquant qu'il est armé.
Guillaume Faure, avocat de la défense.
Jean-Paul Kerr va se tourner vers lui à cet instant-là, va le défier en lui disant « Tire, si t'es un homme ».
Et là,
Alain Faure, avocat de la défense.
William Gallinotti va tirer un coup de semonce parce qu'il veut faire peur, il ne veut pas tuer. Et au lieu du résultat espéré, c'est-à-dire que Kerr prenne peur, remonte dans sa voiture et s'en aille, eh ben c'est pas de ça du tout qui va se passer.
Il explique qu'il tire au niveau de l'épaule, simplement pour neutraliser Jean-Paul Kerr, pour éviter qu'il puisse se servir de ses poings pour faire du mal aux uns et aux autres, parce qu'encore une fois, il est connu pour avoir une force extraordinaire.
Il aurait donc juste voulu lui faire peur et se protéger. Mais il reste un élément à éclaircir. Comment s'est-il débarrassé du corps? Et surtout, pourquoi s'est-il acharné à ce point sur la victime?
Il va improviser, amener son camion qui est juste à côté, charger le corps de Jean-Paul Kerr dans le camion. Il va prendre cette décision que de l'amener au barrage de Charmes pour le jeter dans le Rhône.
Pour faire couler le corps, il a l'idée de l'éventrer. Et ça, évidemment, c'est une image très dure. C'est une image très violente.
Enfin, pour brouiller les pistes, il rapporte le chapeau et la voiture au domicile de Jean-Paul Kerr. Au terme de la garde à vue, William Gallinotti est mis en examen pour assassinat et écroué. Audrey Gallinotti, quant à elle, est poursuivie pour recel de cadavres et modification de la scène de crime. Elle est remise en liberté. Mais Des doutes subsistent chez les gendarmes. Le frère et la sœur leur cacheraient-ils encore quelque chose ? Pour tenter de le découvrir, un an et demi après le crime, ils organisent une reconstitution. Ils veulent vérifier que la version livrée par les accusés est bien conforme aux éléments récoltés pendant l'enquête. Mais ni William ni Audrey ne coopèrent vraiment.
William, c'est quelqu'un qui, à la reconstitution, déjà a été peu prolixe, mais en plus de ça, sur cette deuxième partie, il était comme quasi absent.
Fort commodément.
François Butiot, avocat des parties civiles.
William Gallinotti dira qu'une fois les coups de crosse assénés, il ne se souvient plus de rien et il a un immense trou noir.
On lui demande de mimer finalement l'éventration. Il en est incapable. Il est incapable de faire un quelconque geste avec un faux couteau. Il est incapable de décrire quel couteau il avait. Il est comme démuni.
Alors les enquêteurs s'interrogent. Est-ce vraiment lui qui a commis cet assassinat ? Et surtout, a-t-il agi seul ? Car d'après les experts, il fallait au moins deux personnes pour transporter la victime de la barrière à la berge du Rhône.
Nous ne savons pas précisément quel a été le rôle d'Audrey Gallinotti. Est-ce qu'effectivement elle s'est rendue à ce barrage de Charmes sur Rhône ? Est-ce qu'elle a aidé William Gallinotti à transporter le corps ?
Parce que William n'est quand même pas...
Nathalie de Kayser, journaliste à France Bleu de Romardèche.
D'une carrure aussi imposante que ça pour pouvoir avoir transporté le corps tout seul.
On peut imaginer légitimement que sa sœur lui a prêté main forte. Mais en tout cas, William dira que non.
Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers.
Et c'est moi seul qui me suis occupé de me débarrasser du corps.
Mais elle se défend d'avoir aidé à transporter le corps.
Jacques Dallest, procureur général de Grenoble.
D'avoir accompagné son frère jusqu'au barrage.
Au final, et malgré quelques questions restées sans réponse, les enquêteurs ne retiennent pas l'accusation de complicité contre Audrey Gallinotti. Le procès s'ouvre le 18 février 2019 à Valence, devant la cour d'assises de la Drôme, 4 ans et demi après la mort de Jean-Paul Kerr. Et dès le premier jour, c'est la surprise. Le témoin principal, Philippe, ne se présente pas au tribunal. Un coup dur pour l'accusation.
Il ne nous a pas fait l'honneur de sa présence devant la cour d'assises.
Yvan Flo, avocat de la défense.
Puisqu'il était retenu par une croisière, avait-il peur ? C'est possible.
Du moment qu'on a les dépositions, qu'elles sont claires, et qu'elles sont réitérées, c'est toujours mieux que la personne soit présente face au juré. Il nous a manqué. Hein.
L'absence de Philippe permet en effet aux avocats de la défense de changer le cours du procès. Ils font défiler à la barre une multitude de témoins qui chargent Jean-Paul Kerr et qui expliquent que les violences conjugales sont à l'origine du drame. Mais peut-on pour autant dire que William Gallinotti a attiré sa victime dans un piège pour protéger sa sœur ?
Il y a une forme de guet-apens, parce que lorsqu'on vous dit de venir et qu'on vous attend armé dans une cachette...
François Butiot, avocat des parties civiles.
Et qu'on sorte sa cachette quand vous arrivez non armé, eh bien évidemment, vous êtes pris dans un piège.
Comme si il y avait toujours eu dans la tête des Gallinotti et de William notamment...
Jeanne-Odile Bois, avocate des parties civiles.
La perspective qu'un jour ça arrive... Et l'idée qu'on garde en se disant « si un jour ça doit être fait, je le ferai, quoi ». Et il attendait l'opportunité.
Les avocats de la défense s'acharnent, eux, à démontrer qu'il n'y a pas eu de préméditation.
Il faut ne pas oublier que William Gallinotti, à cet instant-là, ne connaît absolument pas Philippe.
Guillaume Faure, avocat de la défense.
Hein, et commettre un homicide volontaire, un assassinat devant un témoin qu'on n'a jamais rencontré, et qu'il d'ailleurs le dénoncera. C'est une folie.
Mais si c'était un assassinat, il aurait prévu la suite.
Alain Faure, avocat de la défense.
Or, on voit bien que rien n'est prévu.
Il n'y a aucun plan qui est réalisé pour faire disparaître le corps. William Gagninotti est chasseur, il connaît toutes les forêts aux alentours, il aurait parfaitement pu creuser un trou dans une forêt et mettre le corps.
Il y a peut-être eu préméditation, mais ça s'est joué en quelques minutes.
Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers.
C'est le temps que l'ex-compagnon de sa sœur arrive, le temps qu'il aille chercher l'arme à feu à l'étage et qu'il se cache dans la pénombre.
Au terme de 3 jours de procès, William Gagninotti est condamné pour assassinat à 15 ans de prison. En revanche, Audrey Gagninotti est acquittée pour le recel de cadavres et condamnée à 2 ans de prison avec sursis pour la modification de la scène de crime. Le verdict ne satisfait pas la famille de Jean-Paul Kerr. Elle estime que l'on a fait le procès des violences conjugales et non celui de l'assassin de Jean-Paul Kerr. La victime est presque devenue l'accusée.
15 ans pour ce qu'il a fait.
Angélique Bernat, fille de la victime.
Franchement, non, il n'y a pas de justice. Et je veux dire, j'ai l'impression qu'on faisait le procès de mon père.
La victime, c'est quand même mon papa qui a été assassiné.
Océane Kerr, fille de la victime.
C'est lui qui n'est plus là aujourd'hui, qui ne peut pas voir ses petits-enfants grandir, qui ne peut pas aider ses filles, être proche de ses filles, profiter de ses enfants, ne serait-ce que regarder la lumière du soleil.
Quelques mois après ce verdict, les plaies sont encore à vif. Le temps aidera peut-être la famille de Jean-Paul Kerr à faire son deuil.
Et encore aujourd'hui, c'est dur, je me bats pour mes enfants, mais tout ce que je fais, c'est pour mon père. Puis après, je le fais pour lui, pour sa mémoire.
Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.